Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Menachot, page 66, Dav Samer Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Parce que finalement, je peux présenter une autre preuve. En effet, Haré Omer, voici que le pasouk dit dans Dvarim Tetzaïn, Tisporlach, tu compteras pour toi, il s'agit toujours du conte de l'Omer, du fait que le pasouk s'exprime au singulier, cela veut dire que le pasouk s'adresse à une personne responsable. Sfirat Tluya Bebeddin, le compte dépend de la décision du tribunal suprême qui fixe quand débute le mois et quand tombe donc la fête de Pessah, et c'est selon cette décision que sera fixé aussi le début de ce compte si nous décidons qu'il s'agit du lendemain de la première fête de Yom Tov. Yatsta Shabbat Bereshit, nous exclurons la possibilité qu'il s'agisse d'un Shabbat normal, chez Sfiratar Bechol Adam, dont le compte dépend de n'importe qui. N'importe qui sait quand tombe le Shabbat et donc peut commencer le compte de l'Omer même sans décision du tribunal. Forcément donc, le Pasouk a voulu parler du premier jour de Yom Tov. Rabbi Yosef Omer, Mimachorat HaShabbat, lorsque le Pasouk dit le lendemain du Shabbat, Mimachorat Yom Tov, il s'agit du lendemain de la première fête de Yom Tov. Ata Omer Mimachorat Yom Tov, tu le dis qu'il s'agit du lendemain du premier jour de Yom Tov, O Eno Ela Mimachorat Shabbat Bereshit, ou bien peut-être qu'il ne s'agit simplement que du lendemain d'un Shabbat normal, donc d'un dimanche. Amart, tu peux le répondre toi-même. Vichi Ne'emar Mimachorat HaShabbat Shebetoch HaPesach, est-ce que le pasouk dit le lendemain du Shabbat qui tombe pendant Pessah? Behalo lo ne'emar ela mimachorat haShabbat. Pourtant le pasouk ne dit que simplement le lendemain du Shabbat. Dekol hashana kulam le haShabbatot. Donc toute l'année est pleine de Shabbat. C'est uvdok ezu Shabbat. Va vérifier de quel Shabbat parle la Torah. Puisque finalement, si nous n'interprétons pas le pasouk comme voulant dire le lendemain du Yom Tov, donc de Pessah dont parle le pasouk, il n'y a aucune preuve qu'il s'agisse du Shabbat au milieu de Pessah, il peut s'agir de n'importe quel Shabbat de l'année. Ve'od, et en plus, Ne'emra Shabbat Lemata, plus tard, concernant la fête de Shavuot, le pasouk emploie le terme de Shabbat en parlant du lendemain de la septième semaine où tombe Shavuot. Ne'emra Shabbat Lemala, et la Torah plus haut a employé le terme de Shabbat en disant, vous compterez à partir du lendemain du Shabbat, Malalan, de même que là-bas en ce qui concerne le terme de Shabbat employé concernant la fête de Shavuot, Regel ou Trilat Regel, il s'agit d'une fête et du début de la fête. En effet, le lendemain du jour qui conclut la septième semaine, tombe la fête de Shavuot. Afkan ainsi ici aussi, en ce qui concerne l'expression Mimachorat HaShabbat employée pour le début du conte de l'Omer, Regel ou Trilat Regel, il s'agit d'une fête et du début de la fête. Forcément donc, il s'agira du lendemain de la première fête de Pessah. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Katuv Echad Omer, un pasouk dit dans Dvarim Tetzayin, Sheshet Yamim Tochal Matzot, tu mangeras des matzot pendant 6 jours. Ve Katuv Echad Omer, et un autre pasouk dans Shemot Yudbet dit, Shivat Yamim Matzot Tochelu, pendant 7 jours, vous mangerez des matzot. Haketzad, comment complétons ces deux psukim? Finalement, ils se contredisent, puisqu'un des deux psukim parle de 6 jours où il faut manger des matzot, tandis que l'autre parle de 7 jours. Il répond, Matzah she'i ata yachol le'ochla shiva mina chadash, la matzah que tu ne peux pas manger pendant 7 jours de la nouvelle récolte, ata yachol le'ochla shisha mina chadash, tu peux la manger quand même pendant 6 jours à partir de la nouvelle récolte. En effet, si nous décidons que le lendemain du Shabbat dont parle le pasouk pour le début du conte de l'Omer et pour l'offrande du Omer, et le lendemain de la première fête de Pessah, donc seul le premier jour de Pessah, il est interdit de consommer de la matzah de la nouvelle récolte, tandis que les 6 jours suivants, il sera permis de consommer la nouvelle récolte. Ainsi donc, le pasouk dans Dvarim Tetzayin parle de la matzah produite à partir de la nouvelle récolte. Celle-ci ne pourra être consommée que pendant 6 jours, tandis que le pasouk dans Shemot Yudbet parle de l'ancienne récolte. La matzah produite de cette ancienne récolte pourra être consommée pendant les 7 jours de Pessah. Mais si nous disons que le début du conte de l'Omer et donc l'offrande du Omer est toujours le lendemain du Shabbat, donc un dimanche, beaucoup de fois, on ne pourra pas accomplir ce pasouk qui dit qu'on peut consommer la matzah de la nouvelle récolte pendant 6 jours. Des fois, il y aura beaucoup moins et des fois même pas du tout si la fête de Pessah tombe un dimanche. En effet, l'offrande de l'Omer sera le lendemain de Pessah et donc aucun jour on n'aura pu consommer de la matzah de la nouvelle récolte. La Braïta poursuit. Le pasuk dit dans Vaikra Kaf Gimel, Miyom havi achem tisperu, à partir du jour où vous offrirez le Omer, donc cette offrande du deuxième jour de Pessah, vous compterez. Apparemment donc, la Torah donne juste un moment à partir duquel on peut commencer à compter, sans vraiment fixer de jour. Yachol yiktsor ve'avi. Est-il possible de dire qu'il moissonne le nécessaire pour cette offrande et qu'il l'offre, ve'emata shirtse ispor, et lorsqu'il veut, il commencera à compter. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasuk dit dans Dvarim Tetzayin, Mehachel chermesh bakama tachel ispor. À partir du moment où la faucille s'attaque aux épis, tu commenceras à compter. Donc, lorsqu'on commence la première récolte, qui est celle destinée à cette offrande, tu commenceras à compter, mais dans ce pasouk, la Torah ne précise pas quand cette offrande est effectuée. Alors, I me'achel chermesh tachel lispor. Si nous apprenons cela du pasouk, à partir du moment où la faucille commence à attaquer les épis, tu commenceras à compter. Yachol yiktsor ve'ispor. Est-il possible de dire qu'il moissonne le nécessaire pour cette offrande et qu'il commence à compter et dès qu'il veut, lorsqu'il veut, il pourra effectuer cette offrande. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit Miyom aviachem, à partir du jour où vous offrirez. Nous sommes Masechet Menachot Daf Samech Vav Amud Badef, à la 5e ligne avant la Mishnah. Nous avons vu précédemment réparti dans 2 braïtot 8 preuves apportées par des Tanaïm, comme quoi, lorsque la Torah dit qu'il faut commencer à compter le Homer le lendemain du Shabbat, il s'agit du lendemain du premier jour de Pessah. C'est aussi ce jour, donc qui est le lendemain du premier jour de Pessah, que l'offrande publique d'orge, destinée à permettre la consommation de la nouvelle récolte, sera offerte sur l'autel. Rava a dit que parmi toutes ces preuves, seules les 2 dernières énoncées dans la première Braïta et les 2 dernières énoncées dans la 2e Braïta sont valables, les autres peuvent être repoussées. Nous avons vu donc précédemment les réfutations présentées par Rava. Nous en sommes maintenant aux 2 derniers auteurs de la dernière Braïta. En Lagmara dit, Rabbi Yossi Nami Chazeleh Pircha, lorsque Rabbi Yossi a présenté sa première preuve, qu'il est impossible de dire que l'expression « Mimachorat HaShabbat » voudrait dire le lendemain d'un Shabbat, donc un dimanche, car on ne saurait pas de quel Shabbat il s'agit. Forcément, il s'agit du lendemain du Yom Tov dont parle le Passouk, donc la fête de Pessah. En là-dessus aussi, Rabbi aussi a vu que cette preuve peut être réfutée, car même s'il est vrai qu'il s'agit de Pessah, mais peut-être qu'il s'agit du lendemain de la dernière fête de Pessah. « Behainu de Kaamar ve'od » Et c'est donc pour cela qu'il a apporté une preuve supplémentaire qui, elle, ne peut pas être réfutée. C'est le fait que la Torah emploie le terme de Shabbat à propos de Shavuot. Le lendemain de la 7e semaine, il faudra offrir une nouvelle offrande pendant la fête de Shavuot. Et à propos du compte de l'Omer, le Passouk dit aussi « Vous compterez à partir du lendemain de Shabbat ». De même que lorsque le Passouk parle de Shavuot, donc le lendemain du 7e Shabbat, nous parlons d'une fête et du début d'une fête. Aussi, lorsque le pasouk parle de Mimachorat HaShabbat, le lendemain du Shabbat, concernant le début du conte de l'Omer, il s'agit aussi d'une fête et du début d'une fête. Forcément, il s'agit donc du 2e jour de la fête de Pessah. Cette preuve n'a pas de réfutation. La dernière preuve présentée par Rabbi Shimon ben Elazar, de cette contradiction, où d'une part le pasouk dit qu'il faut manger des matzot pendant 6 jours, et d'autre part, un autre pasouk dit qu'il faut manger les matzot pendant 7 jours. La réponse à cette contradiction, c'est que pendant 6 jours, on peut consommer des matzot produites par la nouvelle récolte, tandis que pendant 7 jours, on peut consommer des matzot produites par la dernière récolte. Forcément donc, le 2e jour de Pessah, la nouvelle récolte sera permise par l'offrande publique d'orge qui sera offerte le même jour. Goufa, l'Agmara reprend l'enseignement dit plus haut à Marabaye, Mitzvah le mimne yomé, il y a une mitzvah de compter les jours pendant l'Omer, ou mitzvah le mimne shvoué, il y a aussi une mitzvah supplémentaire de compter les semaines. Donc, Rabbanan deve Ravashi, les sages du Beta Midrash de Ravashi, Manu yomé ou Manu shvoué, comptez à la fois les jours et comptez aussi les semaines, comme nous le faisons aujourd'hui. En effet, à partir du 7e jour de l'Omer, nous disons aujourd'hui est tel jour qui font tant et tant de semaines et tant et tant de jours. Amemar, mané yomé, velo mané shvué, tandis qu'Amemar, comptez les jours, mais ne comptez pas les semaines. Amar, car il disait, Zecher la Migdashu, le fait que l'on compte l'Omer aujourd'hui est uniquement un rappel à ce qui se passait dans le Betamigdash. En effet, dans le Passouk, il est écrit clairement que l'on compte l'Omer à partir de l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Aujourd'hui, cette offrande n'existe pas, il n'y a donc pas à compter l'Omer. Cependant, comme l'explique le Sfat Emet, aujourd'hui, nous faisons toujours et nous accomplissons les mitzvot que l'on peut, qui rappellent ce qui était effectué dans le Beit HaMikdash. Par conséquent, nous comptons les jours, car le Passouk dit, vous compterez 50 jours pour offrir l'offrande du jour de Shavuot. C'est un compte qui devait être fait au Beit HaMikdash, tandis que les semaines se rapportent à la fête de Shavuot, Chag Shavuot, etc., la fête de Shavuot, qui se rapporte justement à la fête des semaines. Ce compte ne devait pas être impérativement fait dans le Beit HaMikdash, mais même en dehors du Beit HaMikdash. Il n'y a pas à faire de rappel à ce qui n'était pas nécessairement fait dans le Beit HaMikdash. Nouvelle Mishnah, Katsruhu, ils ont moissonné l'orge qui était destinée pour cela, Venatnuhu Bekupot, et ils l'ont mis dans les paniers qui ont été préparés, Heviuhu Lahazara. Ils emmenaient ainsi la moisson dans la cour du sanctuaire, et ils faisaient passer les épis au feu, pour accomplir le commandement de Kali, faire griller, dont parle le Passouk. En effet, le Passouk dit dans Baikrabet, Kalui Baesh sera grillé par le feu. Ils battaient les épis d'orge avec des roseaux, et avec la partie centrale des feuilles de chou, afin qu'il ne soit pas écrasé s'il le battait, par exemple, avec des bâtons. Natnuhu le'avuv, il mettait les grains ainsi obtenus dans une espèce de plaque en cuivre au four, ve'avuv hayamenukav, et cette plaque en cuivre était trouée, kedeshihe aour sholet bekulo, afin que le feu du four puisse agir sur tout ce qui se trouvait dessus. Et ainsi donc, les grains étaient grillés par le feu. Chatruhu Baazara, ils étendaient ensuite les grains grillés dans la cour du sanctuaire, afin qu'ils sèchent. Beharuach Menachebetbo, et le vent soufflait dessus, donc pour les faire sécher à l'air. Natnuhu Lerechaim Shel Grusot, ils mettaient ensuite ces grains d'orge dans un moulin grossier destiné à produire de la semoule. Behotziu Mimenu Isaron, et ils faisaient sortir donc de ces grains broyés une quantité d'un isaron, soit environ 4 litres et un tiers, shehu menupe b'shloshesre napa, qui était tamisé avec 13 tamis, l'un plus fin que l'autre, afin de débarrasser cette orge et des impuretés, donc de l'écorce extérieure, et aussi de la farine. Il fallait qu'il ne reste que la fleur de farine. V'ashar nifde v'necha lekol adam, et le reste de cette récolte, donc qui n'était pas utilisée pour l'offrande, pouvait être rachetée, v'necha le kol adam, et pouvait être consommée par n'importe quel homme, v'chayav b'chala, et la pâte que l'on faisait avec cette farine qui restait, est concernée par l'obligation du prélèvement de chala, car finalement la pâte a été fabriquée par un homme concerné par cette obligation, et non pas dans le cadre de ce qui appartient au sanctuaire, donc de ce qui est sacré. Ou patur min ha-ma'aser, cependant, il sera exempté du prélèvement de la dîme, étant donné que le travail de la production de cette récolte a été terminé dans le cadre de ce qui appartient au sanctuaire. Et ce qui est fait dans ces conditions est exempté du prélèvement de la dîme. Rabbi Akiva mechayev bechala ou bema'asrot, tandis que Rabbi Akiva rend obligatoire le prélèvement de la chala et aussi le prélèvement de la dîme. La Gemara expliquera. Nous avons vu précédemment dans la Mishnah la discussion entre Rabbi Meir et les Chachamim concernant la manière dont il fallait faire griller l'orge utilisée pour l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Selon Rabbi Meir, rappelons-le, c'est les épis qui étaient grillés par le feu, tandis que selon les Chachamim, c'est les graines qui étaient grillées par le feu après le battage. La Gemara dit là-dessus, Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta, qui interprète le pasouk dans Vaikrabet concernant cette offrande. Le pasouk dit Aviv, le printemps, Zé Aviv, il s'agit du printemps, autrement dit, il s'agit d'une première récolte. Il s'agit donc des prémices d'orge. Lorsque le pasouk dit Kaloui Baesh, grillé par le feu, Melamed Shehayu Israël Mehavevin Otobaesh, cela nous enseigne que le Béni Israël faisait roussir les épis par le feu, que dès le Kayem Bo Mitzvat Kali, et ce pour accomplir le commandement de Kali, ou plutôt Kaloui Baesh, qui voudrait dire grillé par le feu. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Bachachamim Omrim, tandis que les Chachamim disent, cette offrande. Donc forcément, l'offrande doit être effectuée ce jour même, car avant le jour de l'offrande, il ne peut pas commencer à compter. Im yom aviachem, si nous apprenons cela du pasouk, à partir du jour où vous emmènerez cette offrande, yachol, on aurait pu penser que yiktsor veispor veavibayom, qu'il moissonne et qu'il commence à compter et qu'il offre cette offrande la journée, donc qui suit le premier jour de Pessah. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit, dans Vaikra Kav Gimel, Sheva Shabbatot Tmimot Tihena, elles seront 7 semaines complètes. Et Matai Atamotse Sheva Shabbatot Tmimot, quand est-ce que tu trouves que cette personne a compté 7 semaines complètes? Bizman Shata Matri Limnot Mi Ba'erev, c'est uniquement si tu commences à compter à partir de la veille, donc de la tombée de la nuit. Donc forcément, le début du compte doit être effectué au début de la nuit. En la vraie demande, Yachol Yiktor Ve'aviv Yispor Balayla, peut-être qu'il effectue cette moisson et qu'il emmène l'offrande et qu'il commence le compte la nuit, donc au début de la nuit qui suit le premier jour de Yom Tov de Pessah. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit, Miyom Aviachem, à partir du jour où vous emmènerez cette offrande. Le pasouk précise clairement que cette offrande ne peut être effectuée que pendant la journée. Haketzad, comment accomplit-on tous ces psukim? La Braïta répond, Ktsira ou Sfira Balayla, la moisson pour le nécessaire de cette offrande et le début du compte s'effectue la nuit. En effet, on ne peut pas commencer à compter avant d'avoir effectué cette moisson, comme le pasouk dit, à partir du moment où tu as débuté la moisson, tu commenceras à compter. Behaba abayom, mais le fait d'emmener l'offrande, de l'offrir donc, sera la journée. Il n'y a pas de contradiction parce que la Torah parle du jour de l'offrande et ce jour de l'offrande débute à partir de la tombée de la nuit, bien que l'offrande elle-même sera effectuée le lendemain matin. Amar Rava kulhu itlehu pircha, toutes les preuves présentées par les Tanaïm que nous avons vues précédemment, comme quoi le début du conte de l'Homère, que l'on apprenons du terme Mimachorat HaShabbat, commence en fait le lendemain de la première fête de Pessah, car Mimachorat HaShabbat veut dire le lendemain de Yom Tov, ont tous une réfutation, bar mitarte tanae batraye, à part les preuves présentées par les deux derniers Tanaïm, les deux derniers auteurs, ben bematnita kamaita, ben bematnita batraita, soit ceux de la première braïta, soit ceux de la deuxième braïta, de l'etle upicha, qui eux n'ont pas de réfutation. Il précise, im et Rabban Yochanan ben Zakkai, si nous acceptons la preuve de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est, rappelons-le, du fait qu'une fois le pasouk parle de compter 50 jours, et une autre fois le pasouk parle de compter 7 semaines entières. Il a répondu cette contradiction en disant que le pasouk parle de semaine entière lorsque le premier jour de Pessah tombe à Shabbat, tandis que le pasouk parle de 50 jours lorsque le jour de Pessah tombe en semaine. Dilma, en voici la réfutation, peut-être qu'aider Abaye que ce pasouk, cette contradiction, veut nous enseigner ce qu'Abaye a démontré. D'Amar Abaye, qu'Abaye a dit, mitzvah limimne yomé, il y a une mitzvah de compter les jours, ou mitzvah limimne shvoué, il y a une autre mitzvah de compter les semaines. C'est-à-dire, comme nous le faisons pour l'Homère, il faut à la fois compter les jours séparément et les semaines. Finalement, donc, on ne peut rien prouver de cette différence de langage dans le pasouk. I, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, s'il s'agit de la preuve présentée par Rabbi Eliezer ou celle présentée par Rabbi Yoshua, rappelons-le, Rabbi Eliezer a présenté comme preuve du fait que le pasouk s'exprime en disant Tisporlach, tu compteras pour toi, qui veut dire qu'il y a une personne responsable de ce compte, ce qui veut dire que c'est le tribunal suprême qui est responsable du début du compte, et ça ne peut être que le Yom Tov, dont le début est décidé par le tribunal lorsqu'il décide quand débute le mois, ou bien s'il s'agit de la preuve de Rabbi Yoshua, qui, rappelons-le, est que de la même manière que lorsque la Torah dit de compter les jours pour fixer le début du mois, nous savons toujours à partir de quel moment commence le décompte, à partir de l'apparition de la nouvelle lune précédente. Ainsi, en ce qui concerne la fête de Shavuot, nous savons toujours à partir de quand commence le décompte. Forcément, l'expression « Mimachorat HaShabbat » veut parler d'un Yom Tov et non pas du Shabbat normal. « Mimai Debe Yom Tov Rishon Kaye » qui te dit que le pasouk parle du premier jour de Yom Tov, « Dilma Yom Tov Acharon Kaye » peut-être que le pasouk parle du dernier jour de Yom Tov. Là aussi, le début du compte dépend de la décision du tribunal et nous savons toujours quand commencer ce décompte. « De Rabbi Ishmael Rabbi Yuda Ben Betera Letle Upircha » tandis que les preuves présentées par Rabbi Ishmael et par Rabbi Yuda Ben Betera n'ont pas de réfutation, car ils l'apprennent soit de l'offrande de Shavuot, soit du terme Shabbat employé à propos de la fête de Shavuot. Là-bas, il s'agit toujours de la fête et du début de la fête, comme ils l'ont expliqué dans la Braïta. Donc, il est évident que lorsque le pasouk parle de Mimachorat HaShabbat, il parle aussi du début de la fête, donc du lendemain du premier jour de fête. Rava passe maintenant aux auteurs de la deuxième Braïta. I mid Rabbi Yossi b'Rabbi Yuda. Si c'est de la preuve présentée par Rabbi Yossi fils Rabbi Yuda, qui dit qu'il faut toujours compter 50 jours jusqu'à la fête de Shavuot, et s'il s'agit du Shabbat normal, des fois il y a 51, 52 ou jusqu'à 56. Havamina, j'aurais pu penser répondre, Dilma Chamishim, peut-être que le compte est effectivement 50 jours, le Bar Me'aneshita, à part les 6 jours de Pessah, selon le cas, c'est-à-dire toujours le compte est de 50 jours, même s'il ne commence pas toujours à la même date, imi de Rabbi Yuda ben Betera, et si c'est de la preuve présentée par Rabbi Yuda ben Betera, qui dit que le compte dépend de la décision du tribunal qui décide quand tombe le début du mois, donc quand tombe Pessah, mimai de Yom Tov Rishon Kai, qui te dit que le pasouk parle du premier jour de Yom Tov, dilma Yom Tov Acharon Kai, peut-être que le pasouk parle du dernier jour de Yom Tov, qui dépend aussi de la même décision du tribunal. La suite du shiur sera sur la prochaine cassette.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Daf Samerva Vamudbet. En Ur Lachon Kali, lorsqu'on fait roussir les épis par le feu, on n'accomplit pas le terme de Kali, et là d'avoir acher, plutôt on l'accomplit par le moyen d'autre chose, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une grille par exemple. Nous lisons selon la Shittam Kubetset, Lishna Harina, autre explication ou autre argument, En Lashon Kali et la Davar Kalil. Le terme de Kali employé par le Pasuk veut dire qu'on emploie quelque chose de brillant comme quelque chose en cuivre. Haketzad, comment accomplit-on donc ce terme Kalui Baesh? Avouv Shel Kaliot Hayasham, il y avait là-bas dans le Beit HaMikdash une espèce de plaque destinée à torréfier ou à griller des grains, et cette plaque était trouée comme une passoire, ainsi le feu peut arriver partout et agir sur tout ce qui se trouve sur cette plaque. Donc finalement, c'est les graines qu'il torréfiait sur cette plaque. Le pasouk dit, Aviv Kalui Geres. Nous avons donc interprété précédemment, Aviv veut dire le printemps, donc le début de la moisson, puis grillé par le feu, puis broyé grossièrement. Et ni odea im aviv kalui, je ne sais pas si à l'état de printemps, donc de la moisson de graines entières, il est grillé ou torréfié, im geres kalui, ou bien c'est après que les graines ont été broyées qu'elles sont grillées par le feu. Kesheu omer baesh, lorsque le pasouk emploie le terme baesh, lorsqu'il dit kalui baesh, hifsi kainyan, ce terme marque un arrêt entre ce qui a été dit et le terme « geres ». Donc finalement, c'est « aviv kalui baesh », c'est à l'état de la moisson, donc les graines, où la torréfaction aura lieu. Lorsque le pasouk dit « carmel », ce terme est interprété comme étant une contraction de deux mots, « rach » ou « mal », ce qui veut dire « tendre » et « susceptible d'être décortiqué en étant trituré entre les doigts ». Et ainsi il est dit, c'est-à-dire nous voyons d'autres exemples où le pasouk s'exprime en employant une contraction de plusieurs mots, et c'est ainsi que le terme en question est interprété. Par exemple, le pasouk dans Melachim Bet Perek Dalet dit Vi'ish ba mi baal shalisha, vayave le'ish ha'elokim lechem bikurim esrim, lechem seorim, ve'karmel betziklono, vayomer ten la'am ve'yochelu. Et un homme est venu de l'endroit appelé Baal Shalisha. Il a emmené à l'homme de Dieu, c'est-à-dire au prophète, du pain de prémisse, c'est-à-dire provenant de la nouvelle récolte, 20 pains d'orge et des graines tendres dans leur enveloppe. Et le prophète a dit à son assistant, donne cela au peuple qui se trouve ici et qu'il mange. Le terme de tziklono est interprété comme étant une abréviation de plusieurs mots, car comme l'explique le Malbim sur Vaikrabet, dans le pasouk que nous interprétons, il n'existe pas de mot en Lachon Lakodesh dont la racine serait de plus de 3 lettres. C'est pourquoi donc ce terme est interprété de la manière suivante. Le bet représente ba, il est venu. Le tzadi et le kouf représentent veatsak, donc veatsak lanou et nous a versé de la nourriture. Le lamed représente veachalnou et nous avons mangé. Et le vav, ainsi que le nun vav qui suivent, donc la fin du mot, représente venaveaya, et c'était très bon. Veomer, il y a un autre pasouk qui est interprété de cette manière. Il s'agit du pasouk dans Mishle Zayin, où Shlomo HaMelech décrit les méfaits de la prostituée. Le pasouk parle donc de la prostituée qui essaye d'attirer un amant. Le pasouk dit, Nit alsa be'ahavim, qu'on se réjouisse par les amours. Le terme Nitalsa est interprété de la manière suivante. Le Nun représente Nissa, le Tav représente Veniten, donc qu'on discute. Le Ayin et le Lamed représentent Venaale et qu'on monte sous-entendu au lit. Le Samer représente le Venismar et qu'on se réjouisse. Le He représente Venitrate en inversant le He avec un Chet. Qui voudrait dire donc, et qu'on se promène, be'ahavim, avec les amours. Ve'omer, il y a un autre pasouk qui dit, dans Iov Lametet, qui est aussi interprété de cette manière, c'est dans un passage où Akadosh Baruch Hu, dans ses reproches à Iov, décrit son pouvoir et sa sagesse. Entre autres, le pasouk dit, Knaf renanim ne'elsa, les ailes ou les plumes d'un oiseau nommé renanim, selon certains commentaires, il s'agit du pan, cause la réjouissance. Selon l'interprétation de la Gemara devant nous, il s'agit vraisemblablement d'un autre oiseau que Rashi nomme Bar Yochani. Le terme Ne'elsa est donc interprété de la manière suivante. Le Nun représente Nosé, il porte son œuf. Le Ain et le Lamed représentent Olé, et il monte tout en portant l'œuf. Le Samehé représente Venitrate ou Venitrata, en inversant le Samer avec un Taf, et le hé avec un chet, ce qui veut dire qu'il descend doucement dans son nid pour poser son œuf. Veomer, il y a un autre pasouk qui est interprété de la manière suivante, c'est lorsque l'ange s'adresse à Bilam, lorsqu'il partait en chemin pour maudire le Bnei Israël, il l'a donc arrêté en chemin. Le pasouk dit dans Bamidbar Kavbet, qui arat haderech lenegdi, qui veut dire le chemin où celui qui partait en chemin s'est dressé contre moi. Le terme Yarat est interprété de la manière suivante. Le Yud représente Yarata, elle a eu peur, le pasouk parlant de l'ânesse. Le Resh représente Raata, elle a vu l'ange qui se dressait devant elle. Le Tet représente Natata, elle s'est détournée de son chemin. De Berabbi Ishmael Tana, dans le Beta Midrash de Rabbi Ishmael, il a été enseigné dans une Braïta, l'enseignement suivant, que le terme Carmel veut dire car malé, que les graines doivent ressembler à un coussin rempli. Autrement dit, il faut que les graines soient pleines et donc que l'orge soit bien mûre. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Rabbi Akiva mechayev bechala ubema'asrot. Il s'agit du reste de la moisson destinée à l'offrande du deuxième jour de Pessah. Donc, soit Rabbi Akiva, soit les Chachamim sont d'accord que une fois que ce reste est racheté, la personne qui l'utilise et en fait une pâte devra prélever la chala destinée au Kohen. En ce qui concerne le prélèvement de la dîme, selon les Chachamim, ce prélèvement n'est pas nécessaire, tandis que selon Rabbi Akiva, le prélèvement est obligatoire. Pour comprendre la suite de la Gemara, nous ferons une petite introduction. Minatora, le prélèvement de la dîme, donc du Maaser, destiné au Lévi'im, n'est obligatoire que lorsque le travail de la moisson et de l'engrangement est terminé, c'est-à-dire que lorsque la moisson est battue et puis on entasse les graines, la dernière action est de lisser ce tas, ce qui s'appelle miroir. En l'agmara dit là-dessus, Amarav Kahana, Omer Haya Rabbi Akiva, miroir hegdesh et no poter. Cette action de lisser le tas de graines qui a été fait par le hegdesh, c'est-à-dire lorsque ce travail se termine en possession du sacré, du hegdesh, et c'est donc le responsable ou son émissaire qui a terminé ce travail, selon Rabbi Akiva, cette action n'exempte pas le prélèvement du maaser. Metiv Rav Sheshet, Rav Sheshet a objecté là-dessus à partir du Mraïta qui dit Motar Shalosh Sein Alalu, le reste de cette quantité de 3 CA de moisson d'orge. Mahayo Simbo, que faisait-il avec? La Mraïta répond Nifde, ce reste était racheté, Venechal Lechol Adam, et pouvait être consommé par n'importe quel homme, Vechayav Bechala. Et la personne qui en fait une pâte aura l'obligation de prélever la chala ou patoumina maasrot, mais sera exemptée du prélèvement de la dîme. Rabbi Akiva, mechayev bechala ou bemaasrot. Rabbi Akiva rend obligatoire soit le prélèvement de la chala, soit celui de la dîme. Amroulo, les chachamim lui ont demandé, podé miad gizbar yochiach, celui qui rachète des céréales qui appartenaient au Hekdesh, au Betamikdash, des mains du responsable de ce qui est sacré, te prouvera le contraire. Chez Chayav Bechala, dont le prélèvement de la Chala est obligatoire pour celui qui l'utilise, ou Patourina Maasarot, cependant, ces céréales sont exemptées du prélèvement de la dîme. Pourquoi ce cas est-il différent? Rav Sheshet demande, Ve'im ita de miroir hekdesh eno poter, et s'il est vrai que Rabbi Akiva pense que le fait de lisser le tas de céréales fait alors que ces céréales appartiennent au Hekdesh, au Betamikdash, n'exempte pas le prélèvement du Maaser. Maïka Amrele, qu'est-ce que les Chachamim lui demandent? Hihi, c'est effectivement le même cas. Dans les deux cas, selon Rabbi Akiva, le prélèvement de la dîme serait obligatoire. Forcément donc, nous pouvons prouver de là que Rabbi Akiva pense que lorsque le travail de l'engrangement est terminé, alors que les céréales appartiennent au Hekdesh, ils sont exemptés du prélèvement de la dîme, et ici, il doit y avoir une autre raison. Ve'od, et en plus, etive Rav Kahana bar Tachlifa le Rav Kahana. Rav Kahana, fils de Tachlifa, a opposé à Rav Kahana la braïta suivante. La braïta dit, Rabbi Akiva mechayev bechala ou bemaasrot. Donc, en ce qui concerne les restes de ce qui est destiné à cette offrande du deuxième jour de Pessah, Rabbi Akiva rend obligatoire le prélèvement de la chala et de la dîme, les filles chez l'onitnu ma'ot et la le tzorech lahen. Car l'argent du Hekdesh, du Betamikdash, destiné à l'achat des sacrifices, n'a été donné pour être utilisé que pour ce qui est nécessaire. Autrement dit, le Hekdesh n'a acquis que ce qui est nécessaire pour l'offrande du deuxième jour de Pessah, mais le reste, en fait, n'a jamais appartenu au Hekdesh. Et c'est donc pour cela que le prélèvement de la dîme est obligatoire, car finalement, nous ne pouvons pas considérer que le travail de l'engrangement a été terminé par le Hekdesh ou par son responsable. Et d'ailleurs, comme le précise le Tosfot, soit nous dirons que selon Rabbi Akiva, effectivement, il n'est pas nécessaire de racheter le reste, puisque de toute façon, il n'appartient pas au Hekdesh, ou même s'il est nécessaire de le faire, c'est pour ne pas qu'on risque de penser que ce qui appartient au Hekdesh peut être utilisé par le profane sans rachat. Donc en fait, c'est un décret midérabanan. Et là, la Gemara conclut, Amar Rabbi Yochanan, Talmud Aruch Hu Befiv Shel Rabbi Akiva. C'est un enseignement qui était rédigé clairement dans la bouche de Rabbi Akiva. Donc il le tenait de ses maîtres. Shel Lo Nitnu Ma'ot Ela Le Tzorech Lahem. Que l'argent du Hekdesh destiné à l'achat des sacrifices n'a été donné que pour ce qui est nécessaire. Autrement dit, que le Hekdesh n'acquiert que ce qu'il a besoin pour l'offrande des sacrifices. Donc, lorsque les responsables du Beit HaMikdash ont moissonné une quantité plus grande que ce qui est nécessaire pour l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, n'a été acquis par le Hekdesh que le nécessaire pour l'offrande, le reste n'a jamais été acquis par le Hekdesh. Par conséquent, le prélèvement de la dîme sera obligatoire. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Menachot Daf Samer Vav. Nous commençons le shiur de Masechet Menachot Daf Samer Zain. Nous commençons Daf Samer Vav Amud Bet au milieu de la 14e ligne du bas de la page. Nous avons dit précédemment que le prélèvement du Maaser, de la dîme, n'est obligatoire mina Torah que lorsque le travail de la moisson et de l'engrangement est terminé. C'est-à-dire, après le battage et l'entassement de la récolte, il y a un travail qui consiste à lisser ce tas. C'est ce travail qui marque la fin du travail de la moisson et de l'engrangement. Dès lors, le maaser est obligatoire. Ce que nous verrons ici par la suite, c'est la question, qu'est-ce qui se passe si ce travail qui consiste à terminer la moisson et l'engrangement se fait alors que la récolte appartient à quelqu'un qui est exempté du prélèvement de la dîme, comme le Hekdesh ou un Goy. Si par la suite quelqu'un achète cette récolte, aura-t-il l'obligation de prélever la dîme? La Gemara dit, Amar Rabba Pshitali, il m'est évident des Miruach Hekdesh Poter que si cette action de lisser le tas de la récolte, donc la fin du travail de la moisson et de l'engrangement, est fait alors que cette moisson appartient au Hekdesh. Cette action exempte le prélèvement du Maaser, de la dîme, et ce, selon tout le monde. Vafilu Rabbi Akiva, lo kamechayev atam, et même Rabbi Akiva ne rend le prélèvement de la dîme obligatoire là-bas pour les restes de ce qui a été moissonné pour l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Et là, shelo nitnu ma'ot ela letzorech lahem, uniquement parce que Rabbi Akiva pense que l'argent destiné à l'achat des sacrifices n'a été donné que pour ce qui est nécessaire. Autrement dit, le Hekdesh n'a acquis que le nécessaire pour l'offrande. Les restes, donc, n'ont jamais appartenu au Hekdesh. Et c'est pour cela que, selon Rabbi Akiva, le prélèvement de la dîme est obligatoire pour les restes. Aval miruach Hekdesh be'alma. Mais en général, lorsque la fin du travail de la moisson et de l'engrangement se termine alors que cette récolte appartient au Hekdesh, Poter, cette action exempte le prélèvement de la dîme, même si quelqu'un d'autre rachète ses céréales par la suite. Mais Ruach Haoved Kochavim, si cette action est faite par le Goy, donc lorsque cette récolte appartient au Goy, Tanaé, c'est une discussion entre des Tanaïm, est-ce que cette action faite par le Goy, exempte le prélèvement de la dîme ou non. De Tanya, car il est enseigné dans une braïta. Tormin Michel Israël al Shel Israël. Il est possible de prélever la Trouma, donc qui est le prélèvement destiné au Kohen, de la récolte appartenant à Israël, sur une autre récolte du même type de céréales appartenant à un autre Israël, ou Michel Ovde Kochavim al Shel Ovde Kochavim. Il est possible d'effectuer ce prélèvement à partir de céréales ayant appartenu à un goy sur d'autres céréales du même type ayant appartenu à un goy, ou Michel Koutiim al Shel Koutiim, et à partir d'une récolte ayant appartenu à des QT1 sur une autre récolte de même type ayant appartenu à d'autres QT1, ou Michel Kol al Shel Kol, et il est possible d'effectuer ce prélèvement sur des céréales ayant appartenu à n'importe qui, c'est-à-dire soit à Israël, soit à un Goy, soit à un QT1, sur une autre récolte de même type ayant appartenu à n'importe qui, donc soit si elle appartient à Israël, soit si elle a appartenu à un Goy ou à un QT1. Car finalement, toutes ces récoltes, même celles ayant appartenu à un Goy, est concernée par l'obligation du prélèvement de la Touma et de la dîme. Divrei Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi ve Rabbi Shimon Omrim, Tormin Michel Israël al Shel Israël. Il est possible d'effectuer le prélèvement de la Touma destinée au Kohen à partir d'une récolte ayant appartenu à Israël à une autre récolte appartenant à un autre Israël. Ou Michel Ovde Kochavim al Shel Koutim. Il est possible d'effectuer ce prélèvement à partir d'une récolte ayant appartenu à un Goy sur une autre récolte de même type ayant appartenu à un QT1. Ou Michel Koutim al Shel Ovde Kochavim. Ou bien à partir d'une récolte ayant appartenu à un QT1, sur une autre récolte de même type ayant appartenu à un Goy. אבל לא משל ישראל על של עובדי כוכבים, mais on ne peut pas effectuer ce prélèvement à partir d'une récolte appartenant à Israël sur une autre ayant appartenu à un goy veshel kutim ou à un kutéen, velo michel ovde kochavim veshel kutim al shel Israël. On ne peut pas non plus effectuer ce prélèvement à partir d'une récolte ayant appartenu à un goy ou à un kutéen sur une autre appartenant à Israël. Et cela car pour la récolte appartenant à Israël, les prélèvements sont obligatoires mina Torah, tandis que pour celle ayant appartenu à un goy ou à un kutéen, le prélèvement n'est obligatoire que midérabanan, au meilleur cas. On ne peut donc pas effectuer de prélèvement sur quelque chose dont le prélèvement est obligatoire mina Torah, sur quelque chose dont le prélèvement n'est pas obligatoire mina Torah, et vice versa. Nous voyons donc clairement que selon l'opinion de Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, si le travail de la fin de la moisson et de l'engrangement, donc le fait de lisser le tas de graines, a été effectué alors que cette récolte appartient à un goy ou à un kutéen, mina Torah, le prélèvement n'est plus obligatoire. Nous noterons que les premiers auteurs de la Braïta, donc Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, pensent forcément que même lorsqu'un goy acquiert une terre en Eretz Israël, les produits de cette terre ne sont pas exemptés du prélèvement du Maaser Mina Torah, parce que comme nous l'avons vu, selon eux, la production d'un goy est concernée par l'obligation du prélèvement Mina Torah, au point on peut même l'utiliser comme prélèvement pour une production appartenant à Israël. Et ils pensent aussi que même lorsque le travail de la moisson et de l'engrangement est terminé, alors que la récolte appartient à un goy, quand même le prélèvement du Maaser de la dîme est obligatoire mina Torah. Tandis que selon Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, lorsque ce travail se termine alors que la production appartient à un goy, le prélèvement n'est plus obligatoire mina Torah. Voir le Tosfot.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.